L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Aujourd'hui, on va se poser une question qui nous tourmente tous et toutes, plus ou moins, quand même, en fonction des situations. On va se questionner sur le couple. Alors, comment on fait pour être prêt? Le couple, c'est-il un passage obligé? Est-ce que notre conception de l'amour, c'est lié à la manière dont nos parents nous ont aimés? Comment on gère notre solitude? Pourquoi, parfois, on est attiré par des personnes qui sont mauvaises pour nous? Comment on tombe pas dans ces névroses? C'est quoi la place du sexe? Comment on le fait durer? Et toutes ces questions, on va les traiter avec beaucoup, beaucoup d'humour avec Franck et Vanessa Lobvé. Franck, vous le connaissez sans doute, c'est un thérapeute spécialement connu parce qu'il est très rentre-dedans, anti-développement personnel. Et ce que j'ai découvert dans cet épisode et dans cette conversation, c'est qu'il a aussi beaucoup d'humour. Donc on s'est beaucoup marré. Et en même temps, on a traité le sujet de manière très sérieuse. Vous allez l'entendre. Donc ça va être assez profond. En même temps, ça va vous apporter énormément d'insights. J'espère que ça va vraiment vous plaire. Moi, j'ai passé un très bon moment à l'enregistrer. Je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Vanessa et Franck, comment ça va aujourd'hui?
Bonjour Greg.
Bonjour Greg, ça va bien.
Bonjour tout le monde.
Ça va bien? Bon, alors on est ravis. On va parler du couple ensemble. Ça tombe bien puisque vous êtes tous les deux. Et peut-être que la première question, c'est de se poser la question, est-ce que le couple, c'est un passage obligé d'abord?
Moi, je crois pas. Enfin, pour moi, oui, mais je crois que pour les gens, pas forcément.
Ben moi, je crois que c'est un passage obligé, ne serait-ce que pour se poser la question de « est-ce que j'en ai vraiment envie ?» au moins pour ça, tu vois. Après qu'on aboutisse à « c'est pas trop mon truc, j'ai pas envie de vivre ça », ok, mais sans avoir fait l'expérience, ça me paraît un peu curieux. Donc ça pourrait rester un passage obligé, au moins dans le sens là, au moins pour dire « j'aime pas ».
Ok, je comprends.
Ou « j'aime ».
Ou « j'aime », après, évidemment.
Ou « j'aime ».
C'est comme quand on fait goûter des trucs aux enfants. Il faut au moins goûter pour dire si on aime ou on n'aime pas.
Mais après, on peut aussi avoir eu des mauvaises expériences passées qui font que tu dis que tu n'aimes pas, alors qu'en fait, parfois, tu n'as pas rencontré une personne avec laquelle ça fonctionnerait bien, non?
Bah oui, mais...
Oui, mais du coup, tu as eu l'expérience. Donc, c'est un passage obligé pour savoir si on veut ou on ne veut pas.
Mais pour la suite, c'est vrai que du coup, c'est comme... On reprend la métaphore des légumes et des enfants. Tu n'aimes pas la première fois. Ça ne veut pas dire que quelques temps plus tard, tu n'auras pas changé tes idées à propos du goût ou accepté d'autres goûts, etc. Après, on peut, et c'est un classique, on peut toujours se servir de ce qu'on a vécu de douloureux pour se dire c'est le couple qui est douloureux ou c'est les hommes qui sont douloureux ou les femmes qui sont douloureux. C'est-à-dire qu'on peut généraliser notre vécu. Et en général, c'est des attitudes d'adolescents. Hein. Un adolescent, il fait une expérience et il se dit « ah, bah ça, j'ai déjà fait, c'est mort ». Un adulte pourrait se dire « j'ai pas fait l'expérience, j'ai fait l'expérience avec un tel ». Donc l'expérience avec un tel ne m'a pas plu, ce qui ne signifie rien de ce que serait l'expérience avec tel ou tel autre.
Et alors il y a une phrase sur votre site qui m'a interpellé, et vous dites « travailler sur soi, c'est peut-être la meilleure manière de ne pas bouger ». Et déjà, j'aimerais bien comprendre cette phrase. Et puis ensuite, vraiment la question qui vient derrière, c'est comment on fait pour être... pour être prêt, entre guillemets, si tant est qu'on puisse l'être.
C'est ta phrase. Hein.
Ok, j'y vais. Assume tes phrases.
Non, je la comprends, mais explique ce que tu veux
pour
dire.
Moi, si c'est le meilleur moyen de ne pas bouger que de travailler sur soi, c'est y a plusieurs niveaux dans la réponse. Le premier truc, en fait, c'est déjà l'idée que travailler sur soi, c'est pour moi l'idée que il y a quelque chose qui tourne pas rond chez moi et que et je vais d'abord me considérer comme un problème. Je dis que travailler sur soi n'avance pas parce que si je pars avec comme énergie, comme postulat, ce que je suis ne convient pas et que je travaille là-dessus, c'est-à-dire que je nourris cette idée en énergie, en quête, en recherche, etc., il est rare que ça puisse aboutir à que je tombe en amour de moi alors que le moteur sous-jacent, ça soit ce que je suis ne convient pas. Déjà, il y a cet a priori. Mais après, on pourrait faire un podcast entier hein, juste sur cette question. Donc bon, voilà.
Bah vas-y, hein. Avance. Moi, ça me va.
J'affleure le truc, mais il y a aussi un autre truc. C'est si ça n'aboutit pas, c'est parce que je ne sais plus ce que je veux dire.
Ce qui n'aboutit pas, c'est que c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler, je pense. Travailler sur soi veut dire changer, veut dire guérir, veut dire évoluer, alors que finalement, nous, on pense que c'est le temps qui passe, c'est les cycles, c'est les saisons, c'est la nature, c'est le vécu, c'est les expériences qui fait qu'on change et qu'on évolue. Il n'y a rien à faire pour changer et évoluer comme une plante pousse. Nous, humains, on pousse. Et il n'y a pas il y a rien à faire pour ça.
Après, on est convaincu que c'est intéressant de se poser des questions sur comment nous fonctionnons, mais se poser des questions sur comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on a mis en place, quels sont les enjeux conscients ou inconscients et qui nous mènent là où on est ok pour se poser des questions, mais ensuite chercher des stratégies pour réussir notre vie, là on n'est plus d'accord. C'est à cet endroit-là, en fait, que ça s'arrête. C'est-à-dire chercher des stratégies pour tomber sur la bonne personne, pour faire le bon couple, pour que ça dure, parce que, en fait, l'amour, c'est quand ça dure, ou quand c'est quand ça tombe sur des enfants, ou quand... Tout ça, en fait, tout ce qui, après, relève de la stratégie pour la route vers le bonheur, ça y est, on est plus d'accord. On ne considère pas, en fait, qu'il y ait moyen d'obtenir le bonheur d'une manière délibérée en cherchant à y aller. On est convaincu que le bonheur, ça soit plutôt d'accepter les hauts et les bas, les bons moments et les mauvais moments, les bonnes et les mauvaises expériences, et que d'accepter tout ça puisse nous donner une idée de ce que c'est que le bonheur, tu vois. Mais l'idée d'utiliser le travail sur soi, le développement personnel comme une méthode pour obtenir du bonheur, nous, ça nous donne plutôt la nausée qu'autre chose.
Je dois avouer que même rien que l'idée du bonheur est quand même un concept très étrange, quoi. Finalement, il est très subjectif à chacun, et puis... Et puis, c'est bien plus large que ce qu'on peut imaginer, à notre sens. C'est pour ça qu'il parle des hauts et des bas. On peut trouver du bonheur à notre nostalgie, à notre douleur, à notre dépression, à notre... Enfin, voilà, on peut trouver du bonheur dans le malheur, finalement.
En fait, ce qui... Alors, vous me dites si j'ai tort, ou si je me trompe dans ma compréhension.
De base,
j'ai tort.
A priori sur l'humain, c'est tout le monde, sauf nous, donc payez-nous et on vous expliquera c'est quoi la vie.
En fait, ce que j'allais dire, c'est notre conception de l'amour, elle est très liée à la manière dont nos parents, en particulier notre mère, nous a aimés. Et parfois cet amour, il peut avoir été dysfonctionnel. Est-ce que ça, du coup, tu peux... travailler dessus, entre guillemets, de dire bah, peut-être que, je ne sais pas si ma mère était violente, si ma mère... Et que je vais chercher ce genre de relation derrière, c'est peut-être pas idéal pour moi, même si c'est la traduction de l'amour dans mon inconscient. Donc ça, je peux bosser dessus. C'est ça ce que je comprends. Mais par contre, après, essayer d'optimiser pour atteindre une sorte de bonheur permanent, avoir une vie instagrammable permanente, ça, c'est mort. C'est ça l'histoire ou je me trompe?
Nous, on pense pas qu'on puisse travailler dessus, on pense juste qu'on peut prendre du recul dessus, on peut regarder ça différemment, on peut changer notre perception, on peut...
C'est ça, c'est-à-dire que, si tu veux, notre travail, il se fait en amont de ce que tu es en train de décrire. Bon, alors, évidemment, D'accord. sur la part, c'est, qu'on a déjà nommé auparavant, c'est-à-dire la course au bonheur instagrammable, on est tombé d'accord, c'est pas notre cam, on n'y croit pas, on pense que la vie elle est faite de hauts et de bas, et que si on connaît pas les bas, on connaît pas les hauts, donc viser que des hauts est une sorte de non-sens.
Et puis Instagram, c'est que ce qu'on voit de la vie de ceux qui instagramisent leur vie, on voit pas on ne voit pas toute leur vie, on ne voit que ce qu'ils veulent montrer de leur vie, hein, donc faut pas oublier que c'est une vitrine.
Mais donc, pour revenir à la question à propos de travailler sur ce qu'on a vécu avec notre maman, avec notre papa, parce que je ne sais pas pourquoi tout de suite on part sur la maman, parce que les papas nous servent aussi de bourreaux, hein, faut pas se leurrer. Nous, on va plutôt aller chercher ça en amont, c'est-à-dire avant de dire ma mère est dysfonctionnelle, on va aller se dire peut-être que ma mère est un être humain, que dans l'être humain que j'ai perçu de ma mère, j'ai pris l'angle qui me permet d'en tirer la conclusion qu'elle est dysfonctionnelle. Peut-être qu'en prenant d'autres souvenirs, j'aurais pu en tirer d'autres conclusions. Et donc, je ne serais pas dans le même mood et je ne serais pas dans la même histoire. Donc, nous, on est sur un truc de retourner à la responsabilité des légendes que l'on raconte à propos de nous, de manière à comprendre que, au fond, on va toujours devenir loyal, fidèle à l'histoire qu'on raconte à propos de nous-mêmes. Donc, effectivement, si je prends dans ce que j'ai vécu avec mon parent les moments les plus douloureux, les plus tordus, et que je fabrique la légende de mon expérience comme étant celui qui s'est remis malgré tout, ou celui qui a été écrasé par, et que ma légende tourne autour de ça, il y a toutes les chances pour que dans ma vie amoureuse, dans ma vie professionnelle, dans toutes les facettes de ma vie, je retrouve de quoi consolider cette légende. C'est-à-dire d'être, si par exemple j'ai été victime de ma mère, d'être victime des femmes, si j'ai été victime de mon père, d'être victime des hommes, comme dans une sorte de continuité de ma légende. Alors, c'est un peu difficile à entendre, hein, juste comme ça, parce que j'avoue que je connais pas Vlan.
C'est pas grave.
je ne sais pas exactement comment ton public a l'habitude qu'on lui parle et comment il va réceptionner ça et à quel point il va pouvoir peut-être se servir de ce qu'on dit pour justement nourrir la part de victime ou d'incompréhension, etc. Mais nous, on va aller non pas travailler sur soi, mais travailler sur comment on a pris les choses et non pas comment les choses ont été. Ça fait un petit moment.
C'est un travail de perception, en fait. C'est comment on voit, comment on a vu les choses. On peut changer notre perception. On peut, quand on sait qu'on peut même changer nos souvenirs, quoi, c'est quand même complètement fou.
Oui, mais on va peut-être un peu loin.
Mais
pour nous, c'est assez simple. La réalité vécue est à remettre en cause également. Voilà, on ne croit plus en fait en une version parfaitement claire, parfaitement objective, parfaitement indubitable du monde, qui ensuite nécessite un travail. Voilà, on pense que c'est plus complexe que ça, plus nuancé que ça, et on pense que notre réel pouvoir, le pouvoir des êtres humains, c'est sur le choix. On est convaincu de ce truc-là. Ça va, tu me rejoins là-dessus, Mathilde ?
Je me rejoins là-dessus.
C'est-à-dire que le pouvoir des humains pour nous, c'est le choix. Et de quel choix s'agit-il ? C'est là qu'on a envie d'être précis, c'est sur comment on a envie de prendre ce qui nous apparaît comme étant la réalité, comment on a envie de la prendre.
En fait, je suis hyper d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que le super pouvoir humain, c'est de raconter des histoires, et effectivement, tu peux te raconter tu te racontes une histoire et tu te racontes une légende, et je suis complètement aligné avec ça. Est-ce que c'est ce qui vous fait dire? C'est aussi sur le site et du coup ça m'a fait réagir qu'on a peur d'être démasqué. Est-ce que c'est en fait on a peur que l'autre démasque l'histoire qu'on se raconte parce que vous dites en fait la peur d'être démasqué c'est ce qui crée la solitude et la solitude c'est vraiment un énorme problème de société aujourd'hui lié aux réseaux sociaux, lié à plein de trucs évidemment, mais la réalité c'est que les jeunes sont de moins en moins en relation, ils ont de moins en moins de relations sexuelles et les gens un peu plus vieux ils sont tout aussi seuls, je pense que c'est très lié à la société individualiste etc. mais cette peur d'être démasqué, de quoi on a peur précisément, qu'est-ce que vous voulez dire par là, est-ce que c'est vraiment qu'on a peur que l'autre découvre nos propres légendes?
Ben moi, je pense qu'on a peur simplement de plus être aimé ou de pas être aimé, d'être rejeté, de pas être compris, de pas Je pense que la base, c'est ça, c'est on a peur de pas être aimé. Donc, on croit qu'un certain comportement, une certaine facette de nous sont plus aimables que d'autres. Et donc, c'est celle-là qu'on va montrer en priorité.
Mmh. Je pense également que ce qui crée cette idée de porter un masque et de chercher à avoir des postures de perfection ou d'invulnérabilité, c'est l'idée que si les autres s'aperçoivent de faiblesse ou de fragilité chez nous, ils vont en profiter pour nous faire du mal, pour prendre pouvoir, pour nous écraser, etc., etc. Et j'ai l'impression que là, on fait perdurer une espèce de légende à propos de la méchanceté, ouais, de l'humain.
De l'humain est mauvais.
L'humain est mauvais, comme si en fait, à la moindre occasion, comme si on décelait, tu vois, une faiblesse chez toi, là, en te parlant, on allait dire « Ah, t'as vu, il est faible sur le truc. » En fait, pour le massacrer, le ridiculiser, l'humilier, etc. Et je pense que les gens ont cette idée-là, tout simplement parce qu'ils se comportent avec eux d'une manière tellement brutale, avec eux-mêmes, d'une manière tellement brutale. Le jugement envers soi est tellement dur, tellement sec, qu'on se met à imaginer que tous les gens vont se comporter avec nous comme nous nous comportons avec nous. Et je pense que plus les gens sont intransigeants avec eux, plus ils se veulent parfaits, plus ils se pourrissent la vie à se juger, à se massacrer eux-mêmes à longueur de temps, plus ils ont peur du monde. Et plus ils sont durs avec eux, plus le masque doit être épais vis-à-vis du monde. Parce qu'ils imaginent que le monde va se comporter avec eux comme eux se comportent avec eux-mêmes. Et moi, je crois que ce n'est pas ce qui se produit. Je pense que réellement, quand on rencontre quelqu'un qui est vraiment en posture de véritable vulnérabilité, quelqu'un qui est réellement en train de souffrir, les autres lui tendent la main.
Bah oui, oui, clairement. Moi, je crois vraiment en ça. En cette nature de compassion, quoi.
C'est ça, d'une
pure empathie. Ouais.
Mmh, c'est ça. On croit ça.
Ok. Et en même temps... Moi, ce que j'observe dans ma vie, de manière très empirique, j'ai envie de dire dans ma vie, mais dans la vie de mes amis, etc., c'est plusieurs choses. D'abord, on est souvent attiré par des relations qui sont impossibles des personnes peut-être des amours interdits, par exemple. Et ça, j'aimerais bien comprendre pourquoi c'est comme ça. Et la deuxième chose, c'est ce que j'observe parfois chez moi, parfois chez d'autres, c'est... les personnes qui sont vraiment amoureuses de nous, ou en tout cas amoureuses, dans le sens qui sont vraiment attirées par nous, qui sont vraiment gentilles, etc., bah, c'est pas celles qui nous attirent vraiment. En fait, on va chercher parfois la difficulté. C'est très étrange, je trouve.
J'y vais ?
Oui, je t'en prie.
Moi, je pense que d'abord, les amours impossibles, les amours à distance, les amours avec des personnes indisponibles, etc., c'est le résultat d'une équation toute simple qui est j'ai envie d'être en couple et je ne veux absolument pas un couple durable. Donc, voilà, je me trouve avec une sorte d'amour impossible, ce qui répond à l'équation, ou d'amour en pointillé, ou d'amour à distance, ce qui répond à l'équation. Pourquoi ça ? Tout simplement parce que j'ai envie d'être en couple, parce que j'ai envie d'aimer, d'être aimé, la. Et en même temps, je ne veux pas être en couple, parce que dans ma conception, c'est une prison, c'est un emmerdement. Beaucoup de gens disent « je m'amuse jusqu'à machin, et après, j'aurai une relation sérieuse ». Autant dire que pour le couple, c'est la misère, quoi. C'est la fin de la rigolade, le monde sérieux, le monde chiant, le monde où on souffre. Donc, avoir des relations... comme ça, leur permet de continuer d'imaginer consciemment vouloir une belle histoire, tout en ayant une posture leur permettant de dire « c'est quand même pas de ma faute si je tombe que sur des gens comme ça ». Mais en fait, ça répond à leur autre désir en dessous qui est « surtout pas en couple, c'est la prison, ça, je vais devenir aussi neurasthénique que mes parents, j'ai pas envie de le vivre ». Donc, enfin, il y a déjà cette disposition.
Je pense qu'il y a aussi une autre explication à ça, c'est qu'on est, on est plutôt branché sur l'image. Sur quand tu parles d'inatteignable, de personnes qu'on peut pas avoir, j'ai l'impression que c'est l'image qui fait ça, et alors qu'on va pas voir l'énergie que portent les gens, le cœur qu'ont les gens, on est plutôt sur qu'est-ce qu'on va penser de moi si je suis avec cette personne là ou qu'est-ce que, enfin tu vois, on est vraiment très braqué sur l'image extérieure.
Ah, si tu veux,
cette espèce de truc en carton, là, très instagrammable.
Il faut
justement
beaucoup d'amour pour se taper un chauve. C'est ça, le truc.
Ben, j'ai remarqué, c'est super dur.
Voilà.
Mais lui, il est braqué sur son image.
Non, j'étais sur la sienne, mais pas du tout. J'étais sur la...
Il était sur la mienne, j'avais bien compris la blague. Attends, il est beaucoup moins chauve que moi.
Lui, il ne se voit que dans un avion, quoi. Il est au-dessus de lui tout le temps, donc il ne se voit que de dessus.
Mais le gars est obsédé par son image.
Mais ouais, moi, je pense que voilà, on est très branché image et on va pas voir ce que nous procure l'autre en sensation énergétique. Tu vois, je sais pas trop comment expliquer ça, mais c'est comme si, enfin, moi, je vois beaucoup ça chez les femmes dans les stages. Limite, elle pourrait dire, moi, je veux un blond aux yeux verts, quoi. Tu vois, ça m'échappe. Je me dis, mais comment vous pouvez cocher des cases aussi précises sur ce que vous désirez chez l'autre, quoi. Il y a même plus de questions, d'autres questions que le physique, quoi. Comme si c'était le spermatozoïde qui était le plus important. Non, mais c'est vrai, finalement, c'est très archaïque, quoi. Enfin, je trouve.
Mais, alors, je sais pas, moi, j'ai l'impression que les femmes, elles sont moins sur le physique que les hommes, malgré tout. Mm-hmm. Mais surtout, par contre, l'histoire des critères, ça, c'est une réalité. Consciente ou inconsciente, je vois bien, autour de moi en tout cas, et je pense que c'est pour les personnes qui écoutent, c'est la même chose, beaucoup de critères que tu essayes de sélectionner. Et en fait, d'abord, ça supposerait que l'autre personne est supposée parfaite, ce qui n'existe pas, parce que soi-même, on n'est pas parfait, et que personne n'est parfait. Mais comment on arrive à casser cette histoire de critères, justement? Comment tu arrives à être dans le ressenti et pas dans le jugement automatiquement de l'autre?
Alors moi, perso, je n'essaie pas de dépasser les critères. C'est-à-dire que je n'oppose pas le fond et la forme, je n'oppose pas la profondeur et la superficialité.
Non, c'est pas opposé.
Je ne les oppose pas. J'ai besoin de l'ensemble. Et par contre, je suis intransigeant sur l'idée de l'ensemble. Entrer en relation avec une jolie femme avec laquelle l'énergie, ça passe pas, je suis pas à l'aise, c'est pas mon feeling et je me sens pas le droit d'être moi en sa présence, c'est non. Par contre, être avec une femme avec qui je me sens le droit d'être moi en sa présence, mais que je trouve pas jolie, je n'irai pas non plus. J'arrive pas à séparer les deux. Je pense que lorsque quelqu'un m'apparaît comme jolie, c'est parce que déjà quelque part son énergie m'apparaît comme jolie, et je ne sais même plus faire réellement la différence dans tout ça.
Mais c'est pas des critères de société. J'ai l'impression qu'on est souvent sur des critères. C'est pour ça que je parle d'Instagrammable. On est sur des critères généraux de société. Il faut qu'il soit justement pas chauve. Enfin, tu vois, il faut qu'elle soit bonne, fine, jolie. Alors qu'il y a bien d'autres critères qui nous propres à soi. C'est très personnel, la beauté, quoi, finalement. Il faut que l'autre apparaisse beau. Il faut pas qu'il apparaisse beau au monde, mais à toi.
Oui, c'est ça.
Et c'est une autre question que le physique. C'est pour ça que je parle de sensations. C'est qu'il y a aussi des sens. Il y a le toucher. Le toucher, pour moi, a été hyper important dans ma relation avec Franck, quoi. C'est en le touchant que je me suis perdue en lui. Tu vois, il y a un espèce de truc
faut me toucher. Hein. Je me suis pas laissé. Je me suis comme ça.
Il esquive. Il y a plus animal qu'intellectuel, à mon sens, quoi. Voilà.
Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de critères qui sont... Pardon.
Excuse-moi, ouais, je voulais pas te couper, mais sur l'idée de la perfection, on développe pas, mais. Pour te la faire courte, pour nous, c'est du fascisme pur et dur. On le voit dans les gens qu'on rencontre en stage et qui sont dans une quête de perfection. D'ailleurs, en général, c'est des gens de moins de 35 balais. Après, Dieu merci, ils abandonnent. Mais il y a un espèce de truc d'une violence inouïe, c'est-à-dire qu'ils se veulent parfaits. C'est imaginer qu'il faut vivre en déni permanent. Hein. Se vouloir parfait, c'est être dans une posture où on ne peut pas se regarder. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir comment on fonctionne, quelles sont nos idées sous-jacentes, quelles sont nos intentions, les plus délétères, les plus moches, les plus animales, les plus... on est obligé de vivre dans un déni permanent. Donc, on doit quand même interpeller là-dessus. C'est pas « personne n'est parfait et on va tendre à la perfection ». C'est-à-dire que rien que tendre à la perfection, pour nous, est du fascisme.
C'est déjà une erreur.
Mais c'est d'une violence inouïe, quoi. On ne tend pas vers la perfection, on tend vers son humanité. C'est-à-dire, au contraire, renouer dans notre nuance, dans ce qui est beau,
dans
moche, grand, petit.
Finalement, plus on est complexe,
plus on est humain.
Plus on est humain.
C'est ça. Et plus on veut être parfait, moins on est complexe, hein, puisqu'on n'est plus que la moitié de l'équation qualifiée de bien.
Moi, il y a une phrase que j'utilise souvent, c'est la perfection, c'est lisse, et sur le lisse, tu glisses. Tu ne peux pas t'accrocher, en fait.
C'est du Brice de Nice.
Ah, t'as vu ? Je suis assez fier.
Franchement.
Mais prise de Nice sans cheveux. Tu... du coup.
Ah oui, il faut que ça glisse.
Oui, c'est ça.
Alors, je n'ai pas allé jusque-là, pour le coup. Moi, justement, je dis qu'il faut que ça glisse pas, quoi. Il faut que tu puisses t'accrocher. Comment on fait pour connaître la personne avec qui on se met en couple? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de la connaître En fait, il y a vraiment cette question de « je la teste, je la teste pas, etc. »
Mauvaise note. Très mauvais point.
C'est
ouais,
alors évidemment, nous, on est sur un truc tout simple, c'est que oui, bien sûr, c'est super important de connaître la personne avec qui on vit, mais c'est en vivant avec.
Oui, mais c'est ça, on ne pourra pas ne pas la connaître au quotidien.
Ah oui, quand tu... Non, mais là, je suis toujours dans le avant, effectivement.
Ah ouais, non, dans le,
bah,
dans
tu
ne
pourras
avant.
Pas connaître avant de vivre avec, quoi. Ce sera que des idées, encore une fois. Ce sera qu'une perception, ce sera qu'une façon de regarder, alors qu'on a plein, plein.
Nous, on la connaît, hein, l'histoire. On entre en relation avec quelqu'un et on se met à la regarder selon notre envie, notre poussée intérieure et hormonale de la baiser. Donc, en fait, au départ, c'est simple, tu vas la regarder de manière à obtenir
son cul,
c'est ça. Mais alors, comment on va l'obtenir? En allant cocher à quel point on est fait l'un pour l'autre.
Donc, on est amoureux.
Mais t'es comme ça, mais t'as vécu ça, mais on est tellement pareil, mais c'est incroyable, mais j'ai l'impression de te connaître depuis toujours et machin. Et à la fin de la nuit, là, c'est bon, j'aurai tout validé et on se connaîtra assez pour s'offrir nos corps. Mais on n'est pas dupes. Quelques temps plus tard, on va changer notre angle de vue et aller chercher chez l'autre à quel point la perfection de la rencontre du début était un mensonge. Et écoute, nous, on simplifie le truc. Dans un humain, il y a tout. Il y a le pire et le meilleur. Et au début, on veut voir le meilleur. Ensuite, on va chercher le pire. Mais nous, on n'a pas envie d'être dupes de ça. On n'a pas envie de se raconter des histoires. Quand on rencontre un humain, on sait qu'il n'est ni bon ni mauvais. Il n'est pas meilleur ou pire que le précédent. La vraie question, c'est qu'est-ce que tu vas amener dans la relation?
Et surtout, qu'est-ce que tu veux prouver en allant regarder qu'il soit le pire ou le meilleur? Qu'est-ce que tu cherches à te prouver? Qu'est-ce que tu attends de ce couple? Enfin, tu vois, si tu veux pas vraiment de durer dans ce couple-là, tu vas aller voir ce qui fonctionne pas pour justifier que tu as envie de quitter l'autre. Ça dépend de ton désir sous-jacent, j'ai l'impression.
Oui,
si tu as envie que ça dure longtemps, enfin, moi, je sais qu'avec Franck, on a envie que ça dure toute notre vie. Et donc, du coup, on va aller voir ce qui fait que ça fonctionne et ce qui fait qu'on reste partenaire dans notre relation, pas ce qui fait qu'on devient ennemi à un moment donné. Il n'y a pas ce souhait-là, tu vois. Y a
c'est
pas...
ça. En fait, on ne cherche pas la merde. Et quand de la merde apparaît, elle est renvoyée à simplement l'autre et humain. Et non pas, ah, voilà la vérité à propos de l'autre, il m'avait caché ça, en fait, elle me manipule. Elle est surpris, en fait, de trouver de la merde dans un humain, tu vois, c'est logique. C'est ne pas en trouver, d'ailleurs, qui serait plutôt louche, à
c'est
la limite,
ça.
Quoi, tu vois.
C'est clair. C'est
trouver
clair.
Des fonctionnements délétères, trouver de la jalousie, ou de la méchanceté, ou de la mesquinerie, ou de la radinerie, etc., nous parlait simplement être des
normal.
Signes d'humanité, c'est tout. Et on ne cherche pas des trucs qui seraient, ah, non, s'il y a ça, il faut que je m'en aille, je ne peux pas vivre ça, mais je me prends pour qui? Je me prendrais pour qui à dire, ah non, ça, chez un humain, je ne peux pas le vivre. Il faudrait croire que nous, on est exempt de ces problèmes-là, de ces défauts, de ces fonctionnements. Non, ce serait une fois de plus vivre avec une main sur un œil, c'est-à-dire en déni. Non, on tombe sur un humain, donc il y a du beau, il y a du moins beau, on s'en fout, c'est pas le sujet.
Vas-y, pardon.
J'ajoute ça, finalement, on se dit aussi que c'est ce qui n'est pas beau qui nous demande véritablement de l'amour. Tu vois, ce qui est beau, a priori, et ce qui est magnifique, il n'y a pas de quoi aimer. Ça, c'est aimable d'office, naturellement, tu vois. Il n'y a pas, c'est pas une question d'effort, mais c'est pas ça l'expression de l'amour. J'ai l'impression, moi, que c'est à chaque fois que je vois à quel point c'est un con et que je continue à l'aimer, que je ressens l'amour que j'ai pour lui.
C'est
sinon,
ça.
Le reste...
Non, c'est ça. Et moi, en fait, quand je me sens aimé dans le con que je suis, je me sens en sécurité. Si je me sens aimé pour ce qui va bien chez moi, ça veut dire que je dois passer mon temps à cacher ce qui va mal chez moi et de continuer de vivre avec une espèce de liste de c'est bien, c'est mal, qualité, défaut. Je pense que cette liste, c'est ça qui massacre la plupart des auditeurs et des gens en général. Hein, je vis avec une espèce de truc de ça c'est bien, ça c'est mal, ça j'y ai droit, ça j'y ai pas droit. Et comme on est des humains, bah on doit vivre en faisant semblant de ne pas être ce qu'on est. Mais c'est horrible. Et Et dans ce cas-là, le couple devient super anxiogène, parce que d'un seul coup, c'est un endroit dans lequel je dois me cacher. Alors si, dans mon quotidien, dans mon intime, je dois me planquer, où suis-je en sécurité, quoi ? Nous, on veut faire un couple dans lequel on est vraiment en sécurité, c'est-à-dire dans lequel, moi, j'ai le droit d'être le con que je suis, et Vanessa a le droit d'être la merveille qu'elle est, parce qu'il n'y a pas de... On va bien chercher, il n'y a rien de...
Attends, il n'y a rien, elle est parfaite.
Moins de là.
Et, ça me fait penser à ce que vous dites tu sais, au début d'une relation, quand pour aller aux toilettes, c'est toute une histoire en fait, parce que tu te caches.
C'est ça, c'est...
Alors que c'est complètement con, parce qu'en fait, évidemment, chaque humain va aux toilettes a priori. Ouais. Mais, voilà. Mais n'empêche que t'en as honte.
Toi,
c'est très étrange.
Lui, mais
Comment on fait pour se protéger non, plutôt, comment on fait pour gérer les protections qu'on met en place, justement? C'est plutôt l'inverse. En fait, on met souvent des protections en place pour ne pas souffrir. Comment on fait pour les gérer, en fait? Et comment vous avez fait?
En arrêtant de les gérer. Ça paraît con, mais c'est ça. C'est en arrêtant de contrôler ce qui peut arriver demain, étant donné qu'on ne peut pas le contrôler. On se protège contre un truc qu'on ne peut pas contrôler, tu vois. On n'a pas de bouclier efficace, finalement, contre la vie. C'est la vie, elle est pleine de surprises et on ne sait pas de quoi elle sera faite. Donc, autant l'accepter tout de suite.
Bah, ce qui est assez dingue avec le bouclier, ce qui est censé me protéger, c'est que non seulement ça ne me protège pas, c'est-à-dire que tous les gens qui se protègent continueront de dire « Ah bah tu vois, j'avais bien raison de me protéger, je n'en ai plus. » Donc, ils en ont pris plein la gueule, donc leur protection n'est pas efficace. Mais en plus... La protection va me permettre de ne pas ressentir l'amour de l'autre. Parce que quand je me protège de la souffrance que l'autre peut créer, je me protège de la douceur, la jouissance, du plaisir que l'autre peut créer. Parce que me protéger de la souffrance, c'est simplement me protéger de l'autre. Hein. J'ai coutume de dire que les armures ne sont pas filtrantes. C'est-à-dire que me protéger de la douleur, me protéger d'un chagrin d'amour, ça me protège de l'histoire d'amour qui va avec. Donc, c'est pas compliqué. Pour nous, la seule posture qui vaille, c'est de se dire, si la souffrance doit se pointer, ben on sera au rendez-vous. On va pas vivre comme des chiens, terrés dans notre coin, à dire, ah non, non, si jamais j'ai un jour un chagrin d'amour, ou si jamais j'ai mal, moi je veux pas avoir mal, je veux que du bien-être, moi je suis dans le développement personnel, je veux du bien-être, je veux du mieux-être, je veux que des bonnes sensations, je veux regarder le positif en toute chose. Et là, je deviens une espèce de caniche dégénéré, qui vit dans la trouille, qui vit dans la terreur.
Qui vit dans la trouille, et moi, qui ne vit plus, finalement, parce que...
Non. Non, vas-y, arrache-moi le cœur, c'est tout. C'est qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir un chagrin d'amour, et alors, on a tous eu, on est tous debout, on est tous en train de manger, de se marrer, de vivre la vie. Donc, si je dois avoir mal, j'aurai mal, et point barre. Donc, du coup, les protections, non. Protection, c'est si je me protège de comment Vanessa peut me faire mal, je me protège de comment elle peut me faire du bien. Et il y a plein de notions qui sont en dessous et complètement invisibles, et je pense qu'on n'aura pas l'occasion de les développer tout de suite, si tu veux, Greg, mais un truc tout simple. C'est que j'ai remarqué que plus je donnais de pouvoir à l'autre, plus je me sentais bien et powerful dans ma vie. Moi, j'ai longtemps cherché à avoir du pouvoir. Ça se voit, ça crève les yeux. Il suffit de regarder un peu mes vidéos, machin. Je suis un homme qui aime le pouvoir. Et j'ai mal compris comment on l'obtenait parce que je suis souvent passé par prendre pouvoir ou avoir du pouvoir sur l'autre. Alors que j'ai remarqué aujourd'hui que lorsque je donne du pouvoir aux gens, et notamment à celle qui m'aime, donc quand je lui donne du pouvoir, c'est moi qui en gagne. J'ai de plus en plus de sécurité, de plus en plus d'espace d'expression dans ma vie. Et donner du pouvoir, ça signifie donner des outils à Vanessa pour qu'elle puisse me faire du mal. J'aurais précisé ce truc-là, comme ça on aura quand même un outil efficace. Ouais. On parle souvent, tu sais, de la peur de la vulnérabilité. Tu nous parlais tout à l'heure de la peur d'être...
Ouais, bien sûr.
Et souvent, ce qui est mis en dessous, c'est j'ai peur d'être fragile en la présence de l'autre, j'ai peur de montrer mes failles, j'ai peur de montrer ma sensibilité, mais ça, c'est du bullshit. Montrer sa sensibilité, aujourd'hui, c'est merveilleux, c'est être un héros. Je veux dire, montrer sa sensibilité, c'est super. C'est... Tout le monde adore ça. Ouah, tu vois, l'autre, c'est super. C'est pas ça le danger.
C'est valorisé, ouais.
C'est valorisé. Et l'idée, c'est pas j'ai peur de montrer mes failles ou ma fragilité ou machin. Le vrai truc de montrer sa vulnérabilité et d'être vulnérable, c'est de donner des outils à l'autre pour qu'il puisse éventuellement s'en servir pour nous faire mal. C'est-à-dire, la véritable vulnérabilité, c'est montrer le con que je suis. C'est être capable de dire à Vanessa, par exemple, tiens, t'as vu ce matin, je t'ai parlé de ça, mais c'était juste pour que tu te sentes coupable. En fait, c'est une manip. Juste pour que tu te sentes moins bien que moi, comme ça je me sens mieux. Et là, je suis en train de montrer le con que je suis. Quand je lui donne des outils comme ça, là, je suis vulnérable. C'est-à-dire que je suis vraiment en train de donner des outils à l'autre. Je ne suis pas dans une espèce de fausse posture de « Ah oh non, je dois cacher ma fragilité parce que tu comprends ma sensibilité. » Non, tout ça, c'est du bullshit. Le vrai truc...
Et qu'est-ce que tu fais si Vanessa l'utilise, justement ? Tu lui donnes des outils et elle les utilise contre toi ?
Ben, en fait, ce qui est génial, c'est que soit elle utilise le truc et je vois que son intention, c'est me faire mal, c'est parfaitement clair, soit en fait, elle n'utilise pas le truc et du simple fait de ne pas l'utiliser, elle me montre à quel point elle est capable de me prendre tel que je suis. Et c'est l'autre nom de l'amour. L'autre nom de l'amour, c'est prendre l'autre tel qu'il est. Et donc là, j'ai vraiment un outil lui permettant non seulement d'avoir du pouvoir sur moi, mais de pouvoir enfin m'aimer en renonçant à me faire mal. Et je trouve que...
C'est l'inverse de la protection.
C'est l'inverse de la protection. J'ouvre tout le truc et là, je dis à l'autre, bah voilà, maintenant, tu vois, la balle est dans ton camp. Puisque le truc est tout ouvert, c'est toi, en fait, c'est toi qui as le pouvoir. Et grâce à ça, je vais pouvoir me sentir aimé et je vais te donner l'occasion d'aimer. Ça change la donne et l'autre n'est plus traité en ennemi, si tu veux.
Oui, parce que ce que tu n'as pas dit, je crois, enfin, je n'ai pas tout écouté, mais ce que tu n'as pas dit, c'est que quand on sort avec un bouclier, on est en train de dire à l'autre, tu es capable de me faire du mal et donc tu es capable d'être un agresseur, tu es capable d'être mon ennemi. En fait, on le place directement en ennemi et c'est tout l'inverse de ce qui est censé se passer dans un couple. Dans un couple, on est là parce qu'on a envie d'être là, parce qu'on a envie d'être avec l'autre quotidiennement et passer du temps avec lui. Et je dis pas parce qu'on l'aime, parce que c'est trop large mais le placer en ennemi en
a priori.
A priori, en se protégeant, bah, c'est quand même bizarre.
C'est même hyper agresso. C'est-à-dire que de traiter l'autre immédiatement comme je traitais mon ex ou comme je traitais mon père ou comme je traitais ma mère, c'est hyper agresso. En fait, l'autre n'a pas encore produit quoi que ce soit. On est déjà en train de se protéger de lui. Donc, il est une menace a priori. Donc, en fait, au fond, on sait qu'il a une intention délétère.
Mais l'autre le ressent, c'est quelque chose que l'autre... Bien sûr.
Ça ne crée pas des basses scènes, en tout cas.
C'est ça.
Ça ne crée pas des basses scènes. Je crois que nous, on a résumé le truc comme ça, Greg. On vit de manière à ne pas faire chier l'autre. Je ne sais pas comment l'expliquer.
C'est même l'inverse. On vit pour rendre l'autre heureux, quoi. Enfin, je sais pas.
Pour qu'il soit bien. On le met bien, tu vois. Donc, si on découvre un truc moche chez lui, on se jette pas dessus pour lui dire « Ah, t'as mis, ah.
je savais.
» Et machin. Non, on a envie que l'autre se sente cool dans un truc cool où il n'est pas sous pression.
On a envie d'être, tu vois. En fait. Enfin, moi, je sais pas. Je fais pour lui ce que je voudrais qu'il fasse pour nous, moi, finalement, ouais, en dessous, quoi.
Ça change la donne. C'est ça, hein, l'équation. Elle est toute simple, en fait.
Puis voilà, c'est mon amour, donc je vais pas le prendre pour mon ennemi. Et quand je me prends à le faire, parce qu'il y a encore des mécanismes qui sont là, je me le rappelle, je me dis hop, t'es en train de te protéger d'un truc qui n'est pas là. Il est là, et il t'aime. Sinon, il serait pas là.
Mais ce petit exercice, Vanessa, comment tu le fais ? C'est-à-dire, comment t'arrives à prendre le recul sur tes mécanismes ? Tu vois, parce qu'en fait, il y a une question.
Je connais assez que pour connaître mes mécanismes. Et donc, quand ils apparaissent, parce que je ne peux pas encore les faire disparaître, tu vois, ils sont plus forts que nous, nos mécanismes. Quand ils apparaissent, je m'arrête 2 secondes et je me rappelle que c'est mon amour, que ce n'est pas mon ennemi.
Et puis, on s'en fout, tu vois, on a le droit de merder. C'est-à-dire que ça nous arrive que le ressort émotionnel sous-jacent soit tellement tendu qu'effectivement, on part en vrille d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, le diable sort de sa boîte et on se met à réagir à une situation. Et donc, on peut réagir, mal réagir, aller trop loin, on s'en fout, on a la marche arrière. À tout moment, on peut dire, non mais attends, je
prends le recul en prenant du recul, en m'arrêtant 2 secondes et en regardant ce qui vient de se passer.
C'est
ce que moi j'ai engendré dedans. Tu vois, je vais pas continuer à alimenter ce que lui me fait, mais ce que moi je suis en train de faire. C'est ça, je pense, la prise de recul. C'est se voir faire avec sincérité.
Et pour revenir à ce que vous disiez au début, c'est aussi les histoires qu'on se raconte. Il y a tout le narratif qui va autour. Ah, et aussi, essayer de prendre le point de vue de l'autre, quoi, j'imagine.
Exactement. Mais nous, on n'a plus envie, effectivement, dans notre narration, on n'a plus envie de se servir des gens qui nous aiment, donc papa, maman, mes frères et sœurs et mes ex. On n'a pas envie de se servir des gens qui nous aiment pour faire de nous des victimes qui s'en remettent malgré tout. Voilà, nous, on a envie de jouer à un autre truc. on a envie de jouer à un autre truc. Donc, voilà, évidemment, ces gens-là ont produit des trucs qui nous ont gonflés. Forcément, c'est la vie. Mais on n'est pas obligé.
Mais ça ne remet pas en cause l'amour, quoi. Ouais, enfin, c'est ça, moi, c'est ça qui me choque souvent quand quand on rencontre des gens en stage qui nous disent « Mon père ne m'a pas assez aimé » ou « Ma mère ne m'a pas aimé comme je voulais qu'elle m'aime ». Je remets ça simplement en cause, quoi. C'est une autre façon d'aimer, mais quand on est parent, on sait qu'on aime nos enfants, peut-être maladroitement, mais je ne remets pas l'amour en question, tu vois. Voilà. Wow. C'est ça qui se passe dans mon couple. Je ne remets pas son amour en question. Je ne me dis pas, il me veut du mal, comme on a tendance à le faire. C'est ça qui fait partir en couille la plupart des couples.
On n'aime pas vivre dans la peur, tu vois. Imagine en fait que toutes les 5 minutes, le couple soit remis en cause avec des c'est comme ça. On vit avec quoi, une valise sous le lit, prêt à se barrer au cas où. C'est quoi l'ambiance? On
peut encore parler. On glisse doucement vers le couple, mais juste avant, je voudrais vous poser une question parce que on parlait tout à l'heure de la solitude, du fait de se rencontrer. Souvent, moi, je vois des personnes qui disent « mais je rencontre personne, c'est difficile, etc. » Donc, ils vont sur les apps de dating et je voulais avoir votre avis sur les apps de dating et sur en particulier la suroffre. Des apps de dating.
Ah, toi, t'as les problèmes de riche. Hein. Il a des suroffres.
Moi, c'est. Non, mais suroffres potentielles, Franck. Potentiel.
Non, alors on n'est pas.
On ne connaît pas trop. Moi, j'ai jamais été sur ce genre de site.
Mais moi, je crois que, en fait, c'est toujours mon point de regard, hein, mais je pense que ça ne change rien. C'est-à-dire que c'est exactement comme dans la vie.
C'est une offre en plus, quoi.
C'est ça, c'est une offre en plus, mais
que
elle est déjà là.
De aller au café ou aller faire du sport et rencontrer des gens ou j'en sais rien.
C'est ça. Pour nous, la question, on écrit sur le couple en ce moment et on est passé par se poser justement la question que tu es en train de nous poser à propos des rencontres, oui ou non, pourquoi ça se fait, pourquoi ça se fait pas. Et on conclut simplement que c'est une question de disponibilité. C'est-à-dire la disponibilité énergétique dans laquelle je me trouve, l'état d'esprit dans lequel je me trouve, jusqu'à quel point, en fait, je souhaite vivre ça, vivre une rencontre, à quel point je suis disponible à l'autre ou à quel point je suis, au fond, dans une recherche de critères pour aboutir à une réussite absolue ou qu'est-ce qu'on veut. Et je crois que c'est l'intention sous-jacente, la disponibilité dans laquelle on se trouve, qui manage qui apparaît devant moi ou qui n'apparaît pas devant moi, qu'est-ce que mon esprit va sélectionner ou non. Et voilà, pour nous, appli ou pas appli, on est toujours dans le phénomène de la vie, c'est-à-dire tu vas trouver ce que tu attends, ce que tu espères, au fond.
Tu espères un peu. Si tu n'es pas en couple, si tu ne trouves personne, c'est que inconsciemment, il y a un désir de ne trouver personne. On parle vraiment de ce postulat-là.
Ok, je comprends.
Pas pourquoi, mais c'est pas pourquoi, c'est déjà le postulat. C'est comme ça. C'est moi qui n'en désire pas.
Oui, on part toujours de nous. Hein, au lieu de se dire pourquoi ça m'arrive ou pourquoi ça m'arrive pas, on aura plutôt tendance à se formuler la question comme ça. Tiens, pourquoi j'ai pas envie de ça ou pourquoi j'ai envie de vivre ce genre de truc.
Ouais, je comprends. Je vais glisser vers le couple. Depuis tout à l'heure, on en parle sans mettre le mot précisément, mais de communication. Comment on fait pour bien communiquer dans un couple? C'est une large question, mais j'aimerais bien avoir vos premiers éléments de réponse en tout cas.
Bah moi je serais simple, c'est avec honnêteté, quoi, sans utiliser des raccourcis ou des trucs sinueux qui nous permettent de ne pas être vus pour faire entendre que, enfin tu vois, dès qu'il y a une espèce de stratégie, il y a pas une communication claire, mais
ouais,
Franck,
c'est ça.
A toujours plus de mots pour expliquer ce genre de truc.
On m'a dit Franck.
Bah oui.
Avec plus de mots.
Oui, bah moi, j'appelle ça parler droit, hein, que j'oppose, hein, radicalement à l'idée de parler vrai. Pour moi, parler vrai, c'est dérouler la certitude qu'on a observé la vérité et qu'on sait ce qui s'est passé. Et parler droit, c'est parler de ses sentiments, parler de ce qui nous arrive à nous en particulier.
De ses peurs, de ses doutes.
De nos intentions sous-jacentes, de nos fonctionnements, de nos trouilles, de nos petites manies.
De ses désirs, enfin tout ça.
C'est ça. Et je pense que Vanessa a résumé le truc. Soit j'entre en relation avec l'autre par le biais d'une stratégie qui pourrait commencer par... ce serait bien qu'on parle et qui va aboutir en un...
T'es qu'un connard, voilà.
C'est ça, t'as tout compris.
Pétage de gueule en bonne et due forme. Donc, soit ça commence par des stratégies de communication, c'est-à-dire je voudrais faire prendre conscience à l'autre qu'il est le problème, mais je ne voudrais pas lui dire qu'il est le problème parce que je ne voudrais pas qu'il me dise qu'il a vu que je pensais qu'il était le problème. Ben, c'est bon, je vais plutôt aller regarder comment je suis le problème et je vais pouvoir parler de moi, parler de comment moi je suis le problème peut-être. Mais la question, c'est d'arrêter les stratégies, arrêter de prendre l'autre pour un con, arrêter de prendre l'autre pour quelqu'un qui est incapable, a priori, d'entendre réellement ce que j'ai à dire. Et quand l'autre ne m'entend pas, plutôt que de dire « Ah non, mais l'autre ne veut pas entendre, il est un con », peut-être de se pencher sur le truc, de dire pourquoi, en fait, il a aucune envie d'entendre ça. Parce que peut-être que ça n'est pas de la communication, mais que c'est de la violence. Et j'aimerais vraiment juste décaler le point pour qu'on puisse voir que des fois, dans une communication qui paraît être une communication en profondeur, j'aimerais que mon homme parle de ses sentiments et qu'il exprime, et machin. En fait, on est dans de la violence. On n'a pas envie qu'il exprime, on l'a envie qu'il reconnaisse qu'il n'exprime pas, qu'on reconnaisse qu'il est fermé, qu'on reconnaisse qu'il est le problème, qu'on... En fait, on est dans du pétage de gueule. Et ça, c'est de la violence. Donc, le premier truc pour la communication, c'est de savoir quelle est notre intention sous-jacente. Je sais pas, un exemple tout con, tu vois, Greg,
vas-y.
Tu prononces la phrase « je te l'avais dit ». Quelle est l'intention sous-jacente ? Voilà. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Tu vois, « je te l'avais dit », la plupart du temps, c'est... Ben, ça, en général, ça n'est pas de la communication claire et ça n'est pas pour faire plaisir, tu vois. Et derrière les petites phrases du quotidien, pourquoi je dis cette phrase ? Je voudrais qu'elle aboutisse où ? Comment l'autre va se sentir lorsqu'il l'aura entendu ? Qu'est-ce que je suis vraiment en train de faire ? Le premier point dans la communication, c'est déjà d'être clair sur qu'est-ce que nous, on est en train de faire quand on dit à l'autre « Ah, c'est marrant, là, t'es vraiment comme ta mère. » Ouais, super. Qu'est-ce que t'es en train de vouloir dire ? Et tu crois que ça va aboutir où ? Ou de dire à l'autre « Ah ben, j'espère que tu vas pas me faire le coup de... » Quelle est la phrase ? Elle va où ? À quoi elle sert ? Et est-ce que c'est de la communication ?
C'est ça. Y a
en fait, c'est vachement passif-agressif.
Dire ce genre de phrase.
Pardon.
On peut les dire, mais il y a d'autres façons de dire ce genre de truc, je pense.
C'est vachement de passif-agressif, en fait, dans la manière dont tu le décris.
Mais...
Non ? J'ai l'impression que c'est vachement de passif-agressif.
Oui, c'est ça. Moi, je vois de la violence partout dans la communication, notamment chez ceux qui sont très attachés à la communication non-violente.
Ah, c'est vrai, tu dirais ça ? Parce que, en fait, quand je t'entendais parler, je me disais, tiens, ça me fait penser à la CNV.
Oui,
Et toi, tu dis, en fait, les gens qui sont attachés à la CNV...
Ben, passent leur temps à veiller à ce qui est violent dans la communication. C'est-à-dire que si je veux faire de la communication non-violente, sur quoi je dois mettre mon radar tout le temps et partout ? Sur la violence dans la communication. Et je deviens obnubilé par ça.
Oui, et puis je me surveille sans arrêt pour ne pas être violent.
C'est
et
ça.
Ça, c'est violent.
C'est ça.
Rien que se surveiller devient
c'est de la stratégie.
Violent.
Ça devient de la stratégie, c'est-à-dire qu'il faut d'abord que je montre à l'autre que je ne lui veux pas de mal.
Je suis pacifique.
C'est dire à quel point, en fait,
Je lui en veux.
Je lui en veux, peut-être. je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que...
Ah bah si, totalement.
Si dans la communication, je suis obligé de veiller à ce que l'autre sente que je ne lui veux pas de mal, c'est dire, en fait, que je suis obligé de surveiller mes intentions profondes, comme si il y avait un diable qui allait en sortir. Normalement, j'ai pas besoin d'avoir une communication non violente avec ma femme, tout simplement, parce que j'ai aucun désir de violence, quoi.
Mais donc, tu dois pas gérer la sensibilité de l'autre ?
Exactement. Sûrement pas.
C'est ça.
Ok.
C'est ça.
J'entends.
Je ne gère pas ni la susceptibilité, ni la sensibilité de l'autre. Je ne gère pas ça parce que, Je peux parler à ma femme sans filtre, sans réfléchir, parce que je ne lui veux pas de mal et parce qu'elle n'est pas sur un axe où elle cherche à voir si je ne serais pas en train de faire d'elle une victime.
Potentiellement.
Bon, quoi, on est sur un autre sujet.
Cool. Je comprends. Un sujet qui m'intéresse beaucoup, en tout cas qui a tué un de mes premiers couples, en tout cas, c'est le mode de fonctionnement d'un couple. Et en fait, la question, c'est comment tu fais évoluer ce mode de fonctionnement ? C'est-à-dire, moi, je l'ai vu au moins une fois, très fort. Tu vois, un couple où le mode relationnel, j'étais jeune, en tout cas, j'étais entre 20 et 27 ans. Et donc, du coup, tac, tac, tac. On n'arrivait pas, ni l'un ni l'autre d'ailleurs, à faire évoluer ce couple. Et du coup, ça s'est arrêté au bout de 7 ans. Voilà, ça s'est fini. Comment on fait pour faire ça, pour faire évoluer le mode de fonctionnement d'un couple ?
C'est vrai que...
Tu vois pas ce que je veux dire ?
Si, mais je crois, mais comme je coupe la parole pour faire genre j'ai mieux compris, ça complique un peu. Je crois avoir compris que tu parlais des couples où on se sent le tour à tour au-dessus, puis en dessous, puis au-dessus, puis en dessous. Un espèce de truc où quand l'autre se sent mal, je me sens bien. Quand je me sens mal, l'autre se sent bien. Avec un jeu de pouvoir sous-jacent dont on n'arrive jamais vraiment à se dépêtrer, jusqu'à ce qu'on trouve cette clé qui est d'aimer avoir quelqu'un qui a du pouvoir à ses côtés. C'est-à-dire, on peut le prendre comme ça. Si j'admire Vanessa, il se peut que, comme je l'admire, je lève la tête quand je la regarde et que du coup, j'ai l'impression qu'elle me domine ou qu'elle m'écrase. Et si je veux, si je ne supporte pas l'idée qu'on me domine, si je supporte pas l'idée qu'on m'écrase, je vais très vite devoir la descendre de son piédestal pour arrêter de l'admirer. Le problème, c'est qu'une fois que je ne l'admirerai plus, j'aurai plus la sensation de l'aimer et hop, on refait une boucle. Ouais. Donc, moi, je me mets à comprendre que c'est pas parce que j'ai l'impression que l'autre me domine que c'est son souhait. C'est-à-dire que quand je regarde Vanessa comme grande, du coup je me sens petit, et c'est pas parce qu'elle veut que je sois petit, c'est parce que moi je la regarde comme grande. Et j'arrive à décorer.
Et que tu aimes regarder l'autre comme étant grande.
Et j'aime en fait qu'elle soit grande, donc j'aime être petit à ses côtés. Et tant qu'on n'est pas capable d'aimer être petit aux côtés de quelqu'un, en fait on peut pas vivre à côté de quelqu'un.
Ça reste une bataille.
Ça reste une lutte. Moi, j'aime me sentir petit à côté de ma meuf.
Et se sentir c'est... petit, nul, tu sais, tous ces petits sentiments.
Ouais, je vois très bien.
Tire pas à la hauteur, me sentir en carence, avoir l'impression que je cours derrière, avoir l'impression que j'ai pas le niveau. C'est des sensations, en fait, qui sont désagréables si on lutte contre et parfaitement agréables si on les accepte comme telles. C'est-à-dire, au fond, l'autre a du pouvoir parce qu'en fait, en ma présence, l'autre a du pouvoir. Je lui donne du pouvoir. Je lui donne de la force, je lui donne de la grandeur. Et c'est pour ça qu'elle va se sentir bien, épanouie, en place, et qu'elle sera heureuse d'être là. Et moi, en fait, je ne confonds pas ce truc-là. Ce n'est pas parce que je regarde l'autre comme grand que c'est lui qui fait de moi un petit. Il faut arrêter ça.
C'est vraiment hyper
important.
Ça, c'est
une clé importante à capter.
Et ça me touche d'autant plus que c'est toi qui le dis, Franck, en l'occurrence, parce que chez mes copines qui sont... très smart, qui réussissent vraiment leur vie, etc., réussissent au sens, tu vois, oui, 20e oui. siècle, c'est-à-dire d'accumulation, etc., enfin, peu importe, mais tu vois, qui sont puissantes, en fait, et ben, à chaque fois, elles tombent sur des mecs à qui ça pose un problème, en réalité. C'est-à-dire que il y a encore un bon gros patriarcat qui est bien en place, et en fait, il y a beaucoup de mecs qui aiment pas que la femme réussisse. Ils disent, ils peuvent dire, ah ouais, moi j'aime bien, mais en fait, pas trop. En réalité. Et ça, c'est aussi un truc...
Alors, c'est parce qu'il y a un autre volet à ce que je suis en train de dire, c'est que Vanessa étant non pas... étant une femme forte, étant une femme indépendante, elle n'a pas besoin de faire preuve de force et preuve d'indépendance. Pour moi, tous les gens qui font des démonstrations d'autonomie, des démonstrations d'indépendance et les démonstrations de force sont les gens qui font l'inverse. Sinon, la démonstration n'aurait pas lieu. Et du coup, Vanessa, elle est capable de faire la même chose avec moi. C'est-à-dire qu'elle est capable de me voir comme grand, comme puissant, elle est capable de me regarder avec admiration, en comprenant que c'est pas parce qu'elle est en train de lever la tête que c'est moi qui l'écrase, que c'est pas parce qu'elle me trouve grand que c'est moi qui la rend petite, et que admirer un homme ne la rend pas minable, ne fait pas d'elle une espèce de bobonne sans conséquence. Justement, elle n'a pas cette forme de misogynie qui est que une femme... veut absolument montrer qu'elle est forte parce qu'elle pense qu'une femme qui admire est une femme faible. Ça, c'est le génie. Et non, on trouve que, en fait, la force, au contraire, c'est d'être capable d'être faible à côté de quelqu'un. Ça, c'est de la force. Savoir admirer quelqu'un, savoir mettre quelqu'un au-dessus de soi, ça demande de la force. Péter la gueule de tout le monde pour dire « moi, je suis au-dessus, je domine le monde, personne ne m'attend, je suis autonome, je suis indépendant et je suis au-dessus », ça demande pas de la force, ça demande que de la peur.
Vanessa ?
Oui ?
Toi, ton expérience par rapport aux femmes puissantes, tu dirais quoi ? Enfin, ton expérience de femme, je veux dire, tout simplement.
Je sais pas trop, je dirais que j'ai pas besoin de prouver ou de démontrer que je suis forte et puissante par ma réussite sociale ou par je sais quel biais, tu vois, il y a un espèce de truc comme ça. Je sais pas si je me gourre, mais j'ai l'impression de m'en foutre un peu, tu vois. En fait, je me sens puissante dans mon couple, dans le sens où Je sais pas trop comment expliquer ça, je suis désolée.
Mais dans tes couples passés, par exemple, t'as pas eu des situations où...
Pardon,
dans tes couples passés, t'as pas eu des situations où des mecs ont pas apprécié que justement tu sois une femme puissante et qui du coup ont arrêté la relation? Moi, c'est ce que j'observe beaucoup autour de moi, c'est pour ça que je pose la question.
Non, je crois pas. Je crois pas. J'ai pas eu ce genre d'expérience. Non, c'est plutôt.
Mais c'est parce que justement, à mon avis, enfin, c'est pas une femme puissante comme tu l'entends. C'est-à-dire que elle n'est pas entrée dans les relations en disant j'ai pas besoin de toi. Parce que souvent, c'est ce qui se cache, hein. En dessous de l'idée de la femme puissante, c'est elle entre dans la relation en disant j'ai pas besoin de toi. Et nous, je parle pour deux, mais ce serait vraiment bien qu'effectivement on ait ton son de cloche parce que tu connais le patriarcat et les hommes blancs de bientôt 50 ans.
Mais en fait, je m'en fous un peu, tu vois. Je dois avouer que si j'ai la sensation de ce patriarcat et de l'autre qui est plus powerful que moi ou machin, ben j'y fais pas gaffe, je m'en fous un peu, tu vois. Je ne surveille pas. En fait, il y a pas ce truc de surveillance si lui est au-dessus ou moi en dessous ou moi. Il y a pas cette surveillance là.
On n'est pas dans ce game.
Je sais vraiment pas comment expliquer ça d'autre.
Je comprends.
Tu vois, je me fous du rôle de la femme à la maison. Je fais à manger parce que je fais à manger parce que je considère que je fais mieux à manger que lui, simplement, et que j'ai envie que mes enfants soient bien nourris parce que pour moi c'est important. Que lui ça allait pas, tu vois. Mais si je me retrouve pas à avoir peur du rôle de la bobonne à la maison. En fait, j'aime ce rôle et je surveille pas s'il est bien pour moi ou mal, ou si c'est lui qui me le donne ou me force, ou j'en sais rien. Je m'en fous, je fais ce qui me fait plaisir, ce que j'aime faire. Et puis, quand ça me fait pas plaisir, je lui demande. Et puis, il est toujours là dispo. Enfin, tu vois, il n'y a pas cette espèce d'enjeu de.
D'un autre côté, je produis ce que j'ai. À produire, sans rentrer dans le modèle de l'homme qui doit partir chasser pour ramener le pain. Je m'en tape, je m'en fous, en fait, je fais aussi ce que j'aime. Et quand j'ai pas envie, bah, je le fais pas.
Ouais, mais, c'est ça.
On est sur des trucs de base comme ça, mais si tu veux, là où on en était, qui est intéressant à capter, c'est qu'on n'a pas peur d'avoir besoin de l'autre. Moi, j'ai besoin de ça, j'en ai vraiment besoin pour plein d'espaces dans ma vie, qui vont de ce qu'il y a dans ma gamelle à de ce qu'il y a dans mon cœur. C'est vraiment très grand, tu vois. Et j'ai pas peur d'avoir besoin de l'autre, et elle n'a pas peur d'avoir besoin de moi. On n'est pas dans un truc où l'idée, c'est j'entre dans une relation, mais je te préviens, j'ai besoin de personne. Tu vois, un espèce de truc de je te préviens.
Ouais, je vois.
Ah non, on sait clairement l'un l'autre qu'on a besoin l'un de l'autre.
C'est ça. On veut dépendre l'un de l'autre. On ne cherche pas cette forme d'indépendance alors qu'on veut faire un couple. Pour nous, c'est un non-sens.
D'ailleurs, c'est même ce qui est le plus important dans notre vie, c'est notre couple. Dès qu'il y a une petite rayure dans le couple, on cherche tout de suite à l'arranger parce qu'on n'est pas bien, quoi.
Non, on veut tout réorganiser immédiatement. Tout peut merder.
Après, on dit pas que c'est sain ou pas, on s'en fout. On est comme ça et on accepte d'être comme ça, tu vois. Voilà, on est dépendant l'un de l'autre, on forme une espèce d'œuf et puis voilà. On cherche pas à d'abord s'aimer soi avant d'aimer l'autre. Enfin, tu sais, tous ces trucs à la con.
Je vois bien.
On est très jaloux, très exclusif et on vit avec ça. On vit avec ça. On se connaît et on s'accepte.
C'est ça. Notre plan de carrière, c'est tenir la main de quelqu'un jusqu'au bout. Ce n'est pas avoir un plan qui nous permet de nous en sortir s'il y a problème, divorce, rupture, machin, qu'on puisse partir avec notre pognon, pas y laisser trop de plumes. On n'est pas dans des délires comme ça. Notre projet, en fait, c'est qu'on sait que face à la mort, face à la vieillesse, face à la véritable douleur quand elle se présente, le seul truc qui compte, c'est qui est là.
C'est l'autre.
Et s'il n'y a personne là, ton compte en banque, ton succès et ton compte Insta...
D'ailleurs, parce que tu parles de longévité, vous avez parlé tous les deux de longévité du couple. Est-ce que vous pensez... D'abord, il y a cette idée que le couple dure 3 ans parce que, historiquement, c'est la période pour laquelle il faut qu'un enfant il puisse être autonome, etc., etc., parce qu'il est prématuré, machin.
Mais là, j'en ai connu, je ne savais pas d'où venait
Ah, c'est vrai, ça vient de là, en fait. C'est parce qu'en fait, un enfant, il est prématuré.
Ouais, c'est ça, tu rencontres, tu niques 9 mois, naissance, allaitement, épisiotomie...
Mais non, mais 3 ans... Les calculs qui sont faits, les théories qui sont sorties...
C'est excellent.
C'est fou, quoi.
D'accord, oui, bah ouais, nous, on a dépassé ça maintenant. Cool.
Mais du coup, mais parce que moi, y a la question que je me pose, pour le coup, vraiment, c'est est-ce que la famille nucléaire, comme on l'entend, qui est un truc très récent finalement, la famille nucléaire, ça date des années 70, c'est-à-dire le fait d'avoir papa, maman, les enfants. Avant, il y avait toujours les oncles, les tantes, les grands-mères, etc., pour des raisons économiques, hein, tout simplement. Mais, et avant, on disait, ça prend un village d'élever des enfants, etc., etc. Est-ce que vraiment ce modèle papa, maman, les enfants, ça peut fonctionner sur le long terme? Parce que ça laisse très peu de liberté à l'un et à l'autre, finalement.
Mais c'est de ça dont on se fout. C'est exactement... En fait, c'est, notre liberté, elle se situe là. Moi, je me sens libre avec lui, mais je fais pas attention à être libre ou pas. Enfin, tu vois, ma liberté est dans mon enfermement dans mon couple.
C'est ça.
Je comprends.
Je suis libre jusque-là. Je suis libre jusqu'à m'enfermer et jusqu'à dépendre, tu vois.
Voilà, en fait. C'est assez marrant parce que, tu vois, la longévité est super importante pour nous. Et on est d'accord avec l'idée que ça s'arrête. C'est-à-dire que... on sait que si on se met à agir pour que le couple dure, on va commencer de créer de la merde. On vit de la longévité parce que on est d'accord avec l'idée de souffrir. Si ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera et c'est tout. Quand on n'est pas d'accord avec l'idée de souffrir, on se met à gérer, on se met à contrôler, on se met à mettre le nez dans les affaires de l'autre.
À s'assurer.
Ouais, je vois.
Chercher des garanties, donc à chercher des preuves. Et quand on cherche des garanties et des preuves, on obtient des mensonges, puisque personne ne peut obtenir ça. Et puis, etc., etc. Donc, c'est parce qu'on est d'accord pour se perdre qu'on sait que ça dure.
Il y a un autre truc, moi, que j'ai remarqué, c'est que souvent, les gens, ils s'assurent contre le départ de l'autre. Un espèce de truc comme ça. Je ne veux pas qu'il parte, je ne veux pas qu'il me quitte. Voilà. Alors que finalement, le plus grand départ, c'est la mort. Et ça, on n'a aucun contrôle là-dessus, on n'a aucune assurance là-dessus. Enfin, moi, je suis plutôt là-dessus, tu vois. Ma plus grande peur, c'est qu'il disparaisse vraiment, c'est qu'il meure. Et qu'est-ce qui peut faire que j'empêche ça? Je ne peux pas empêcher ça. Donc, c'est un truc que je ne peux pas contrôler, tu vois. Donc, autant... je suis une grosse feignasse, finalement. bah oui, mais c'est ça. Je suis vraiment une feignasse.
Enfin, la vérité sort.
Oui, je suis une vraie
feignasse. Voilà, merci.
Qui s'assume en tant que telle.
Oui, avec plaisir, Franck.
Les véritables idées.
Donc voilà, j'assume ma fainéantise et j'arrête d'essayer de contrôler ou de gérer ou de m'assurer ou de me protéger contre un truc contre lequel je ne peux pas m'assurer.
Il y a une idée en ce moment qui tourne beaucoup, qui est que les jeunes ne mettent pas assez d'efforts dans leur couple pour que ça dure.
Vous voyez ce
truc
dire ça. Comment c'est le truc? C'est pourquoi machin? Ah ben vous êtes dans l'ère du jetable. Nous, à l'époque, on réparait les choses ou un espèce de truc comme
ça. C'est ça, un truc du genre, exactement. Ouais, qu'est-ce que vous avez envie de dire là-dessus?
Que j'emmerde les vieux cons. Et on fout la paix aux jeunes sur leur façon de gérer le truc et puis toujours.
Mais qui s'éclatent les jeunes, je t'imagine que les jeunes se disent maintenant, moi je veux rester avec celle-là toute ma vie, mais moi je leur espère plein d'expériences. Puis l'amour, c'est pas sur la durée, il peut y avoir une histoire d'amour de 2 jours qui est d'une beauté hallucinante même par rapport à une autre qui aura duré toute une vie, quoi. C'est pas une question de durée,
c'est ça. Puis tu sais, toujours cette espèce de truc de nomenclaturer les choses, de tirer des règles, de faire des généralités pour pouvoir faire des postes. Moi ça me gonfle, quoi. Tu vois, les gamins, les jeunes, dès que la phrase commence par les jeunes, déjà ça commence un peu
d'aujourd'hui.
Ouais, alors, les jeunes d'aujourd'hui dans la société dans laquelle c'est bon, quoi. Il y a autant de jeunes que de jeunes, et il y a autant de façons d'envisager le couple que... Voilà, c'est donc, il y en a qui essayent de faire des couples parfaits, il y en a qui s'en foutent, il y en a qui profitent, il y en a qui sont comme des amis, d'autres qui sont comme des frangins, et d'autres qui vivront leur vie ensemble, d'autres pas. Et franchement,
d'autres qui s'aimeront en cachette sans jamais rien faire. Non, mais il y a plein de formes possibles, et toutes ces formes sont... belles, il n'y en a pas une plus belle que l'autre, je trouve. Nous, on sait comment nous, on fonctionne et ce que nous, on désire. C'est pas pour ça qu'on dit qu'il faut que tout le monde désire ça.
Ouais, c'est
que
ça.
C'est
on
la forme
pas,
la plus...
Bien sûr.
On ne souhaite pas ce modèle
pas du tout.
À chacun.
Même à mes enfants, je ne leur souhaite pas. Je leur souhaite vraiment de vivre leur vie comme ils la veulent. Puis voilà, il n'y a pas un bon ou un mauvais modèle, quoi.
Je comprends. Ça fait une heure qu'on parle, mais néanmoins, si vous avez le temps, j'aimerais bien vous parler de sexe. Parce que le sexe et le désir, en particulier, dans le couple, c'est un vrai sujet. Alors, au début, le sexe, en général, ça se passe bien. Pas toujours, mais ça peut se travailler quand même. Le problème...
Bien au début, quand même. Hein. C'est quand même
ouais.
une bonne indication, quoi, je trouve.
C'est une belle indication si ça se passe bien au début. Et il faut aussi se connaître un petit peu pour savoir ça. En particulier pour les femmes, j'ai l'impression que... Parfois, tu sais même pas que ça se passe pas super, ou en tout cas que ça pourrait être mieux. J'ai la sensation, mais comme je suis pas une femme, je suis pas
ultra mal baisé. T'en sais rien.
C'est vrai.
Et ouais, peut-être.
Finalement.
Peut-être. Mais la question surtout, c'est comment on fait comment on fait durer le désir. Moi, c'est surtout ça la question. Et comment on fait durer le désir sexuel. Est-ce que le désir, c'est vraiment la bonne question à se poser d'ailleurs?
Ben, moi, je pense que c'est une question primordiale dans un couple. C'est ce qui différencie le couple d'une autre relation, d'une amitié ou de... Le désir est hyper important.
Mais comment on le régénère alors? Comment on fait pour toujours vouloir ce qu'on a déjà finalement?
Alors nous, on n'a pas eu besoin de le régénérer parce qu'il ne s'est jamais éteint. Donc c'est assez marrant parce que c'est la même... c'est un peu comme un éternel
désir,
début,
oui,
ça c'est cool. Mais je sais que ce qui s'est passé pour moi, c'est tout ce dont je peux parler, sans faire trop de détails, parce que ouais, c'est toujours des endroits où ma pudeur me gêne, je pense, mais j'essaye d'ouvrir. Mais ce qui a vraiment changé pour moi, c'est qu'avant, je pensais que la sexualité, c'était des gestes à produire, donc des gestes plus ou moins cool, qui me renvoyait à des trucs plus ou moins de mes fantasmes intérieurs, de mon porno intérieur, et donc me faisait plus ou moins plaisir selon les gestes produits. Et puis j'ai découvert dans la relation là, et en même temps en parallèle de nos métiers qui sont quand même vachement tournés sur le feeling, la sensation et les perceptions, où j'ai remarqué que le même geste pouvait avoir des niveaux de profondeur différents selon l'état d'esprit et les intentions que j'avais envers l'autre. Donc ça a été, pour moi, c'est une exploration, et on est entré dans cette exploration il y a 10 ans, et on est encore dedans. Mais pour moi, c'est ça, c'est-à-dire que je croyais qu'une fois qu'un geste était fait, bon, bah celui-là, on l'a fait, ok, next. Alors que maintenant, j'ai capté en fait qu'on pouvait faire le même geste avec une intention, il produisait ça, avec une autre, il produisait ça, avec une autre, encore ça.
Et à un certain moment, il produit ça, à un autre moment, il produit encore autre chose.
Et que coup, en fait, le même geste peut être fait 10 000 fois sans jamais aboutir au même résultat. Et du coup, quand tu vois le nombre de gestes qu'on a et la profondeur des intentions sous-jacentes possibles, on est face à une exploration qui
infini, quoi.
Voilà. Et pour nous, en fait, ce côté infini du truc, le fait qu'on n'a jamais encore rencontré cette lassitude, parce qu'on est encore à chaque fois étonné.
Attends, tu parles pour toi, Franck. Hein. Ça se trouve, Vanessa, elle l'a rencontré. Tu dis que toi, tu l'as jamais rencontré. Oui,
mais il y a un autre truc aussi, peut-être, une autre clé qu'on peut aussi donner, c'est qu'on on communique beaucoup là-dessus. On en parle, quoi, tu vois, et c'est pas un sujet où on a peur l'un de l'autre. On en parle quand il y a besoin d'en parler ou quand on a envie d'en parler. Et j'ai l'impression que dans les couples, c'est très compliqué d'oser dire à l'autre, je vis ça. Tu vois, il y a une espèce encore de pudeur aussi dans les couples. Mmh. C'est quand même un sujet très intime. Du coup, voilà, en parler aussi, c'est super important. Et il y a un autre truc aussi que j'ai remarqué, c'est que la sexualité est bien plus large que ce qu'on croit, c'est-à-dire que nous, on pense sexualité, on pense orgasme, alors que c'est pas ça le but de la sexualité. Le but de la sexualité, c'est de faire danser deux corps et puis de se toucher finalement. C'est d'arrêter de se causer, d'arrêter d'être sur un plan mental et d'être sur un plan bien plus charnel. Donc,
il y a ça. Alors dans ce cas, on baise à longueur de journée. Parce qu'on passe son temps à se toucher pendant qu'on se parle là.
Vous faites l'amour.
On a la main qui se touche, on a le pied qui se touche en dessous. On est constamment en contact.
Mais c'est parce que pour nous, le charnel est très important. Et dans les couples, j'ai l'impression que le charnel n'existe. Enfin, en tout cas, dans moi, ce que je connais, de ce que j'ai entendu de problèmes de couple, le charnel n'apparaît que dans la sexualité. Tu vois, et du coup, il n'y a pas ce contact et cette mise à jour corporelle, en dehors de la sexualité. Donc, t'imagines la pression qu'on se met, la pression et le poids qu'on met dans la sexualité. Ça devient plus quelque chose de léger. Ça devient.
Si tu veux, ce qui nous permet, dans la journée, quand on est là, qu'on se croise, de se toucher, de passer la main dans les cheveux, de vivre ce truc-là, c'est que, en dessous, il y a toujours cette idée, tu sais, que l'autre n'est pas traité en ennemi, et donc, on n'a pas le sentiment d'être envahi. On le retrouve pas mal dans les couples qu'on reçoit, ou dans les gens qu'on rencontre en stage. Des histoires de territoire. On est dans un couple et on a peur que l'autre nous envahisse, que l'autre, on doit avoir une sorte de jardin secret, on doit avoir une forme de distance, on doit avoir de l'espace, alors que nous, on est dans une disposition inverse. On a envie d'être envahi, on a envie que l'autre habite chez nous, chez soi, on n'a pas envie de se mettre à l'abri de l'autre, et du coup, les contacts ne sont pas vécus comme envahissants, dérangeants, ils sont...
Ou obligatoires.
Ou obligatoires, oui, c'est ça, c'est l'inverse aussi.
Exactement, ça ni obligatoire. Et c'est vrai qu'on pense que la sexualité ne se manage pas quand on est dans un lit et qu'on est à poil, mais elle se manage dans tous les autres espaces de la relation dans le quotidien. C'est comment on se touche et comment on se regarde partout ailleurs qui fait ce qui se produira ensuite dans
la démarche. Il est là le réel désir, tu vois, on parle souvent de désir sexuel, alors que non, le désir, il est dans le quotidien,
du quotidien
tous les jours. Comment je désire la peau de l'autre, finalement.
Et alors, j'ai une question pour Franck. Peut-être plus que pour Vanessa. Comment tu romps avec le principe de la maman putain ? Tu sais, ce truc de une fois que j'aime une femme, je suis sur une relation hétérosexuelle là, mais du coup, j'ai du mal à l'envisager comme la putain au lit, on va dire.
Je dépasse déjà en fait.
Déjà, j'ai beaucoup de pudeur. Donc, merci pour cette question.
Non, mais Vanessa, je la prends pas pour ma maman. C'est peut-être d'ailleurs la première relation où je la prends pas vraiment pour ma mère. Ce qui d'ailleurs a changé le truc pour les gars qui cherchent, c'est parce que je suis d'accord pour la perdre. Toutes les autres femmes avec qui j'ai vécu, j'étais pas d'accord pour les perdre. J'avais peur de souffrir et je les ai prises pour ma mère. Et elle, je suis d'accord pour la perdre. Et du coup, je la prends pas pour ma mère. Et attention, d'accord pour la perdre, ça ne veut pas dire que j'en ai envie. Ça veut dire que si la souffrance se présente, je ferai face. Et je ferai une boutade. Je passerai au-dessus en disant que tout ça, c'est des questions de morale et je ne vois pas où est le problème avec l'idée de baiser sa mère. Dans la mesure où l'autre n'est pas ma mère. L'autre n'est pas ma mère. Ce n'est pas parce que c'est une représentation maternelle que je n'ai pas le droit de baiser les mamans. Tu comprends ? Donc je ne comprends pas. Imaginons que Vanessa soit pour moi une représentation maternelle, je ne dors pas, je sais qu'elle n'est pas ma mère pour autant. Donc si c'est l'idée de baiser l'idée de ma mère, pourquoi pas que j'en ai à cirer. Non mais je veux dire, je m'appelle pas Freud, je vis pas avec une Bible dans le... Hein, donc voilà quoi, il faudrait quoi, que je considère Vanessa comme une MILF ? Pas de problème.
Ok, très clair. Et une dernière question, toujours sexuelle. Hein. Je suis désolé, Franck, j'ai bien compris que c'était pas...
Beaucoup de sa mère, hein, quand même.
Ouais, je trouve. Dès le départ, il a commencé avec sa arme.
Ah ouais, c'est vrai.
Bah oui, c'est vrai.
Dans ta première question, il y avait déjà... Attention, hein.
On s'en... Ouais, je suis en train de glisser doucement, là. comment on aborde des fantasmes dont, parfois, on peut avoir honte soi-même ?
Aïe.
Ben, en les exprimant, je pense, déjà. Enfin, tu peux le dire, toi, vas-y, pardon. C'était pour lui, en plus.
Ben, on les exprime.
Non, ça marche pour toi aussi, Vanessa, hein, pour le coup.
Ben, moi, je pense, quoi, en les mettant dehors. Souvent, on a honte d'un truc. Et quand on en parle, on n'est pas si clair avec son désir, tu vois. C'est le fantasme, c'est bien le fantasme. Le fantasme, c'est quand même quelque chose qui est très élucubré. Enfin, je sais pas trop comment définir ça, mais la définition même du fantasme, c'est ça. Dès qu'on fait redescendre ça dans la matière et qu'on dit à l'autre, tiens, je voudrais peut-être bien faire ça. Puis rien qu'en le disant, parfois, il y a, ouais, je suis pas sûr que j'ai envie de le faire, quoi, tu vois. Je me demande si j'ai pas envie que ça reste de l'ordre du fantasme. C'est comme si on autorisait une certaine partie de nous un peu pas malsaine, parce que c'est pas du tout malsain, c'est considéré comme malsain pour nous, c'est pour ça que ça fait partie de l'ordre du fantasme, tu vois.
Okay,
moi, je vois les choses comme ça. Une fois que c'est dit, bah, on voit déjà si l'autre a envie ou pas, donc c'est cool parce qu'on voit si l'autre a envie d'y jouer ou pas, donc finalement, on a l'opportunité d'y jouer, ou pas. Et puis, on voit si on en a réellement envie ou pas.
Quant à moi, je retournerai sur le volet de donner du pouvoir à l'autre. Exprimer quelque chose dont j'ai honte, c'est encore donner un outil à l'autre pour qu'il puisse me planter un couteau dans le cœur, donc y déposer une caresse, puisque ça signifie simplement que l'accès à mon cœur est libre. Et je suis toujours dans le même délire. Plus je lui donne de pouvoir pour me faire du mal, plus je donne de pouvoir pour me faire du bien. Plus je suis connu, plus je suis moi en la présence de ma femme. Donc oui, c'est flippant, je peux dépasser cette peur pour lui dire les trucs dont j'ai honte. Ça peut être utile dans le sens là.
Super clair. Merci beaucoup. Donc j'ai toujours cette dernière question, je vous l'ai dit sur ce podcast que vous ne connaissez pas mais que vous allez connaître. Le podcast s'appelle Vlan. Donc je voudrais savoir à quoi vous voulez ouvrir et où claquer la porte.
Et où ? Donc on soit on ouvre.
Et où ? Soit tu ouvres, soit tu fermes, soit tu fermes et tu ouvres comme tu veux. Enfin comme vous voulez d'ailleurs.
Personnellement ou pour tout le monde en général, on s'en fout en fait.
Ah non, c'est enfin logiquement c'est toi qui claque ou qui ouvre.
J'ouvrirais bien au printemps, c'est le jour du printemps aujourd'hui et donc à la surprise, j'ai envie de dire.
Putain, ça. Mais comment t'es trop forte.
Voilà, je me montre un peu et à la surprise parce que j'aime bien les surprises même si elles font un peu peur.
Cool.
Toi, tu fermes un truc ou pas? Non. C'est là qu'il me dit bah je ferme un autre relation.
Moi,
voilà, je savais pas comment te le dire.
Chier.
Moi je vais fermer à l'hiver parce que si tu veux aujourd'hui non je sais pas, moi je vais aller sur quoi je vais partir Vlan et Vlan. Ah ouais, moi je vais y aller comme ça et Vlan, et si on s'en tapait un peu de tout ça. On arrêtait en fait avec d'être là avec le nez dans notre vomi à regarder, il y a un morceau de ça, voilà ce qu'on m'a fait, voilà ce qu'on m'a dit. Et si on passait à un espèce de truc où on arrête de
laisse ça derrière.
On arrête un petit peu là de jouer au
à l'explorateur,
de surjouer. Qu'est-ce qui va m'arriver? Et ça va. Si on pourrait se détendre un peu là. Vas-y, viens, on vit le truc et après on verra.
Vivant. En fait, c'est une. Ouais, faut vivre.
Ouais, c'est ça.
De toute façon, déjà, est-ce qu'on a le choix finalement, quoi. On est là. Donc,
C'est ça. Je veux dire, un peu moins être sur la touche en train de calculer, à être là, à écouter des podcasts ou des gens comme moi, je parle bien de moi, qui vont voir en fait quel sera notre prochain pas dans la vie. Et sans déconner, vas-y, éteins le bordel et va jouer, quoi.
Pour rien.
Ouais, être dans l'action.
C'est ça, ouais, parce que c'est le printemps.
Bon, enfin, vite à vie, c'est le printemps.
Cool, merci beaucoup à vous.
Merci.
Merci.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg From Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt !